France Culture.
Et les midi, deuxième partie, c'est reparti. Jim Jarmusch sera mon invité à partir de 13h, mais tout de suite, je suis avec Marie Sorbier pour le Point Culture.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Le magazine Society et le média Forbidden Stories ont sorti mi-décembre un numéro spécial dans lequel on peut découvrir, entre autres, 10 enquêtes interdites. 10 enquêtes pour lesquelles les journalistes ont risqué leur vie et c'est justement pour que leur travail ne soit pas empêché que Forbidden Stories a été créé. Protéger le travail des journalistes menacés, c'est le dossier du Point Culture du jour. Laurent Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Forbidden Stories. Dans ce numéro spécial que vous avez préparé avec le magazine Society, on apprend par exemple que 532 journalistes ont été assassinés depuis 2017, d'où votre mantra qui résume votre engagement au quotidien. Tuer le messager ne tuera pas le message. D'où est venue, Laurent Richard, l'idée de créer Forbidden Stories?
En fait, c'est venu après de longues années de reportages à l'étranger, dans des pays où compliqués, où la liberté de la presse n'existe pas, où j'ai eu des amis, des consoeurs, des confrères qui ont été arrêtés, qui sont partis en prison. Et à partir de là, j'ai commencé à m'interroger sur la nécessité de créer une organisation mondiale qui poursuivrait les enquêtes de ceux qui sont empêchés. Et puis après, évidemment, il y a l'attaque contre Charlie Hebdo. Ils étaient nos voisins de palier à l'époque où je travaillais à Première Ligne. Ce jour-là, je suis arrivé quelques instants après que les terroristes aient quitté le bâtiment. Et avec nos amis de Première Ligne et voilà, mes collègues, on a tout fait pour aider ceux qui survivaient. Donc ça, c'était en 2015, à la fois cet attentat et l'arrestation de mon ami Khadija en Azerbaïdjan. Et ça a été un vrai déclic pour moi, avec une question que je me posais, c'était de savoir qu'est-ce qui avait du sens après tout ça quand on était journaliste. Et la réponse, je l'ai trouvée en créant Forbidden Stories, une organisation dont la mission serait la suivante. Désormais, on allait poursuivre les enquêtes des reporters assassinés, emprisonnés ou menacés.
Mais alors très concrètement, comment ça fonctionne? Les journalistes qui se sentent en danger vous envoient en l'état l'enquête qu'ils sont en train de faire pour que vous puissiez la poursuivre?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les journalistes les plus en danger, ceux qui risquent d'être kidnappés la semaine prochaine, ceux qui viennent de faire une interview d'un gouverneur corrompu au Mexique, par exemple, mettent à l'abri leurs investigations en cours, celles qu'ils s'apprêtent à publier. Et si jamais ils sont empêchés, parce qu'ils en sont empêchés, parce qu'ils sont kidnappés, parce qu'ils sont emprisonnés, parce qu'ils sont assassinés, alors à ce moment-là, nous, on va réouvrir ce coffre-fort virtuel et on va pouvoir poursuivre l'enquête du reporter assassiné ou emprisonné. Et surtout, ce qui est important, c'est le caractère dissuasif. C'est-à-dire qu'il y a plus de 230 journalistes extrêmement menacés dans le monde qui utilisent tous les jours ce qu'on appelle le Safebox Network et qui travaillent avec Forbidden Stories et qui font savoir publiquement haut et fort que désormais ils ne sont plus seuls et que leur enquête est inarrêtable. Donc ils font savoir sur leurs réseaux sociaux, ils font savoir dans des vidéos, ils font savoir dans leur email quand ils envoient les questions à l'entrepreneur corrompu ou aux politiciens sur lequel ils enquêtent. Ils font savoir que désormais ils ne sont plus seuls. Donc ça agit comme un bouclier. Donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien avec Forbidden Stories. On rassemble et on entraîne et on met à l'abri ces investigations sensibles. Et puis après, au quotidien, on poursuit les enquêtes de reporters très souvent qu'on ne connaissait pas et qui ont été assassinés ou emprisonnés. Et on s'associe à plusieurs. Quand un journaliste tombe, on est 50 à prendre la relève, on est 50 à poursuivre son travail avec deux objectifs. Le premier, c'est faire en sorte que l'opinion publique, les gens, nous tous, nous soyons au courant des enquêtes sur lesquelles ils enquêtaient. Et en général, c'est des enquêtes très importantes qui portent sur les crimes environnementaux, qui portent sur les violations des droits humains, sur la corruption. Et le deuxième objectif derrière, sur le plus long terme, c'est d'envoyer un message fort aux ennemis de la liberté de la presse pour leur dire « tuer le messager ne tuera pas le message ». Et de leur faire bien comprendre qu'en fait, en réalité, c'est contre-productif parce que si vous en tuez un, il y en a 50 derrière qui vont reprendre l'enquête et mettre à la une des journaux du monde entier cette même enquête que vous vouliez censurer.
Mais justement, sur cette stratégie de dissuasion par la collaboration, est-ce que vous avez le sentiment que les régimes autoritaires et les organisations criminelles, par exemple, ont changé vis-à-vis de ces journalistes d'investigation? Est-ce que vous avez déjà les premiers fruits?
On a des témoignages de nombreux journalistes qui utilisent tous les jours le Safe Box Network, qui expliquent à quel point c'est important pour eux de ne pas se sentir seuls. Et on sait que ce qui tue les journalistes, c'est l'isolement. C'est le fait de ne plus avoir de soutien autour de soi. Et à ce moment-là, les prédateurs de la liberté de la presse, qu'il s'agisse d'administration, de businessmen corrompus, de dictateurs, vont s'en prendre plus facilement à un journaliste ou à une journaliste s'il la sait ou s'il le sait tout seul et totalement isolé. Et puis évidemment, c'est difficile de mesurer ce qui n'arrive pas, ce qui ne survient pas. Mais nous, notre objectif, c'est pas seulement d'établir un réflexe entre confrères, c'est vraiment de lutter au nom de l'information de l'opinion publique dans une époque où on est totalement en bataille contre l'industrie des désinformations, où on est dans un moment de défiance absolue à l'endroit des journalistes, dans un moment où on ne sait plus faire la différence entre une information et une opinion. Nous, on est là pour faire en sorte que les informations les plus importantes, celles pour lesquelles des journalistes sont prêts à mourir et donnent de leur vie, c'est-à-dire des enquêtes sur, effectivement, sur les crimes environnementaux, sur la corruption, le blanchiment, soit publié et puisse voir le jour. Et ce qu'on apporte à Forbidden Story, c'est une sorte d'assurance vie pour l'information. La méthode est très simple, c'est l'intelligence collective. On se met à plusieurs et à plusieurs, on sera plus fort.
Oui, parce que vous avez vraiment comme ADN hein, une volonté de travailler en collectif. Vous travaillez par exemple avec beaucoup d'autres médias. Pourquoi cette stratégie d'organisation ?
Parce que la collaboration entre plusieurs rédactions du monde entier, ce qu'on appelle le journalisme collaboratif, ça apporte plusieurs choses. La première, c'est la protection. Ça ne fait aucun sens de tuer un journaliste s'il y en a 49 autres qui travaillent avec lui sur la même enquête. La deuxième chose que ça apporte, c'est de la ressource. C'est-à-dire que si on est à 50 à enquêter sur telle industrie de la chimie qui pollue tel endroit et un journaliste a été menacé à cause de cette enquête-là, forcément on aura plus de ressources, on va pouvoir aller documenter avec beaucoup plus de moyens. Et donc au final, pour le lecteur, pour l'auditeur, ce sera une vraie valeur puisqu'il y aura encore plus d'informations dans cet article au final. Et puis la troisième chose, c'est l'impact. Quand on publie à la même seconde, à la même heure, une enquête que certains avaient voulu tenter de passer sous silence, on arrive à poser un sujet et à faire de ce sujet un débat public. Quand on a publié nos révélations sur le scandale Pegasus, le monde entier s'est emparé du sujet. De la même façon, quand on a publié le projet Gaza et qu'on a poursuivi, quand on a enquêté sur le ciblage par les autorités israéliennes de journalistes à Gaza, le monde entier a réagi.
Puisque vous venez de mentionner l'enquête Pegasus, je rappelle aussi qu'il y a eu un mécanisme du journalisme sur France Culture qui a été réalisé sur votre travail et sur cette enquête-là, et il est toujours disponible à la réécoute. On parle beaucoup, Laurent Richard, d'autocensure par la peur. Est-ce que vous avez, vous, l'impression, dans les rédactions que vous suivez, que ce soit au Mexique, en Inde, en Afrique subsaharienne ou même ailleurs, que cette autocensure est toujours là, est toujours présente? Et comment, vous, avec votre organisation, vous pouvez travailler sur ces biais-là?
Bien sûr qu'elle est présente. Elle est présente, elle est quasiment dominante, même dans ces coins du monde, dans ces pays où il y a un fort taux d'impunité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mécanisme judiciaire qui va permettre d'identifier le tueur du journaliste. Donc les journalistes ont peur et s'auto-censurent. Pas tous, certains vont prendre d'énormes risques pour publier des enquêtes. Moi je pense que ce que redoutent le plus les tueurs de journalistes, c'est pas tant des campagnes d'affichage ou des manifestations qui sont importantes, il faut faire un travail de plaidoyer, mais c'est surtout de voir leurs propres crimes, leurs propres méfaits, leurs affaires de corruption exposées. Et c'est pour ça que je crois définitivement que cette forme de journalisme, le journalisme collaboratif, c'est vraiment l'avenir du journalisme. Et c'est aussi une façon de restaurer la confiance à l'endroit du téléspectateur, du citoyen, de l'opinion publique, pour leur montrer qu'on est capable de s'unir ensemble quand les sujets sont extrêmement importants. Et on vit une époque où le sujet majeur, c'est l'industrie de la désinformation, c'est l'usage de l'IA qui va amplifier cette désinformation auprès des plus jeunes générations notamment. Et donc face à ça, pour lutter contre ça, il nous faut des journalistes vivants. On peut vouloir sauver la planète du changement climatique, mais si on n'est pas capable d'enquêter sur les crimes environnementaux et d'avoir des journalistes vivants et libres d'enquêter sur ces mêmes sujets-là, alors on n'y arrivera pas. Donc pour moi, l'essentiel, c'est d'unir nos forces et de travailler ensemble.
Merci beaucoup Laurent Richard, et je rappelle que le hors-série est en kiosque depuis le 11 décembre. Merci.
Merci à vous.
Merci Marie, on se retrouve lundi pour de nouvelles actualités
culturelles. À lundi, Marie, bon week-end.
Bon week-end. En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.